Très bon réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous reviendrons dans ce journal sur l'issue des élections israéliennes avec la quasi-certitude désormais que Benjamin Netanyahou effectuera un cinquième mandat à la tête d'Israël. C'est ce qu'indique en tout cas le jeu des alliances. Nous y reviendrons largement.
Les Indiens s'apprêtent eux aussi à voter pour des élections législatives. Un scrutin de 900 millions de votants qui va dire si oui ou non ils souhaitent reconduire l'autoritaire Narendra Modi.
La date butoir donnée aux Anglais pour sortir de l'Europe devrait être repoussée. À quand et sous quelles conditions? On devrait en savoir plus. À l'issue du Conseil européen de ce jour, les Anglais, eux, aimeraient éviter de voter une nouvelle fois sur le sujet.
Et puis en France, l'opposition parlementaire enclenche le référendum d'initiative partagée pour contrer la privatisation d'Aéroports de Paris, une initiative du Parti Socialiste qui a regroupé bien plus de signatures qu'exigées.
Enfin, trois proches du président à nouveau convoqué par la justice aujourd'hui, une simple audition pour éclaircir l'affaire dite des passeports d'Alexandre Benalla. Après 13 années au pouvoir et des soupçons de corruption, Israël souhaite continuer avec Benjamin Netanyahou et son parti, le Likoud. Le résultat des élections législatives semble le confirmer, en tout cas, même s'ils sont serrés, tout indique qu'à la Knesset, c'est le parti de Benjamin Netanyahou qui sera en position de former une coalition gouvernementale. Écoutez-le, c'était ce matin après les tout premiers résultats.
Je suis très ému que le peuple d'Israël m'ait de nouveau donné sa confiance. Pour la cinquième fois, et de façon plus large, d'après la plupart des sondages, le bloc de la droite, dirigé par le Likoud, continuera à diriger l'État d'Israël dans les quatre années à venir. Je compte rapidement terminer les négociations pour former un gouvernement de droite stable. Ce sera un gouvernement de droite, mais j'ai l'intention d'être le Premier ministre de tous les citoyens d'Israël.
Benjamin Netanyahou, donc, dont le parti est au coude à coude avec l'alliance centriste bleu et blanc de Benny Gantz, son principal rival. Bonjour Valérie Crovat.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Culture en Israël et vous avez couvert pour nous ces élections. Leur issue, à l'heure qu'il est, ne fait plus vraiment de doute.
Oui, alors nous étions hier soir avec les supporters de Benjamin Netanyahou qui nous parlaient de quelques ajustements, mais ils étaient très confiants et l'arithmétique des alliances est telle en Israël que Bibi est effectivement ce matin en position de force pour former une nouvelle coalition. Le président Rivlin n'aura donc pas d'autre choix que de lui confier la formation d'un futur gouvernement. Tout au long d'une campagne qui a été marquée par des attaques personnelles à l'encontre de son adversaire Benny Gantz, Bibi n'a eu de cesse de revendiquer son bilan en matière de sécurité, en matière économique. Il a mis toutes ses forces dans la bataille jusqu'à la fin de la campagne avec des annonces chocs comme l'annexion des colonies juives de Cisjordanie pour séduire ceux qui, à droite, seraient tentés de voter pour Gantz, et ça a manifestement marché. C'est un animal politique, Netanyahou, qui ne se laisse jamais abattre. Néanmoins, il plane toujours sur lui la menace d'une inculpation pour corruption dans trois dossiers différents. Sa mise en examen, si elle était prononcée, pourrait prendre plusieurs mois. Et entre-temps, il n'est pas obligé de démissionner tant que tous les recours n'auront pas été épuisés. Il a donc largement le temps d'ici là de préparer sa défense.
Merci beaucoup Valérie Crovat et je me tourne vers vous Jean-Pierre Filu, rebonjour, spécialiste du Moyen-Orient, invité des matinales. Alors on aurait pu croire Benjamin Netanyahou fragilisé par ses soupçons de corruption, pas du tout.
Pour Netanyahou, toute bataille est la bataille la plus importante parce que son système a toujours été de l'ordre du quitte ou double. Soit il gagne tout, soit il perd tout. Et c'est effectivement avec cette énergie, cette pugnacité, qu'il a toutes les chances de former demain le prochain gouvernement. Cela dit, ce gouvernement, à peine constitué, pourrait être fragilisé par la détermination de Netanyahou à faire voter une loi d'auto-amnestie, parce qu'effectivement, les menaces qui pèsent sur lui sont très lourdes en termes judiciaires. Et il est possible que des partis qui acceptent de gouverner avec lui, en revanche, ne soient pas disposés à le blanchir de tous ses actes, surtout s'ils ont été perpétrés dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales.
Et pour le reste, même homme, même politique ?
Là, vu tous les faits accomplis, toutes les déclarations, toutes les transgressions qu'il a menées ces dernières semaines, on peut se demander jusqu'où il ira, parce qu'il a placé la barre très très haut. On a évoqué la question de l'annexion des colonies en Cisjordanie. S'il va dans cette voie, plus de discrimination, plus d'occupation, plus d'implantation, c'est très inquiétant pour la démocratie israélienne. Il est possible que la participation relativement moins élevée à ce scrutin par rapport au précédent, qui résulte d'une participation relativement faible de l'électorat israélien, indique une tendance de longue durée où les Arabes d'Israël, c'est-à-dire pratiquement 20% de l'électorat et de la population, entreront dans une forme d'exil intérieur. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour tous les Israéliens.
Merci beaucoup Jean-Pierre Filliou. On vous retrouve après ce journal dans la deuxième partie des matins. Beaucoup plus à l'est, une autre nation se prépare à choisir son gouvernement, mais à une échelle bien plus importante et pour cause, l'Inde et ses 900 millions de votants renouvellent leur parlement à partir de demain. Les opérations de vote vont durer plus d'un mois. C'est la plus grande élection du monde. Depuis 5 ans, le gouvernement indien est dirigé par les nationalistes hindous et surtout par un premier ministre, Narendra Modi, qui a tenté d'incarner à lui seul l'État indien, omniprésent et autoritaire pour ses détracteurs, charismatique et salvateur pour ses partisans. Narendra Modi est un personnage controversé. Analyse avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi.
Narendra Modi a transformé la démocratie parlementaire indienne en un système autoritaire et quasi présidentiel. Il prend des décisions radicales avec un petit groupe d'élus et de fonctionnaires et se présente ensuite comme le leader providentiel qui ne peut être contredit. Explication de Gilles Vernier, professeur de sciences politiques à l'université indienne Ashoka.
À la fois, Modi est omniprésent dans les médias, sur les réseaux sociaux, par Twitter, mais il n'a pas donné une seule conférence de presse depuis son élection. Et donc la communication est toujours unilatérale, émane toujours du leader. Il n'existe pas d'opportunité de mettre le leader en question. Communiquer directement avec la population ou l'électorat, c'est une des caractéristiques premières du populisme. Les institutions, les élus, on rend toutes ces institutions médiatrices invisibles pour créer ce lien fictif, direct, entre le peuple et le leader.
Le parti nationaliste hindou du BJP a encouragé le culte de la personnalité de Narendra Modi, présenté comme le sauveur de la nation indienne et le seul capable d'emmener le pays vers un idéal fascisant, la grandeur d'une Inde pure, hindoue et militarisée. Et
Sébastien Farsi de RFI pour France Culture. À Pyongyang, pas d'élection mais une réunion plénière du parti unique pour discuter, je cite, des tensions actuelles nées notamment du rendez-vous manqué de Donald Trump et Kim Jong-un. Hier, le dictateur nord-coréen a demandé aux cadres du parti de montrer une attitude digne et de suivre la nouvelle ligne stratégique du parti, selon l'agence de presse officielle, ce qui pourrait signifier, selon les analystes, un remaniement au sommet.
8h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Les dirigeants européens vont-ils se montrer un peu moins flexibles que prévu ? L'hypothèse, en tout cas, d'un report supplémentaire de la date du Brexit apparaît de plus en plus probable, alors qu'il n'en était pas question il y a quelques jours.
Et Theresa May attend tenté de convaincre hier ses homologues allemands et français. Aujourd'hui, elle va tenter de faire de même au Conseil européen. En Angleterre, pendant ce temps, les Anglais s'attendent de plus en plus à être consultés, qu'il s'agisse de voter pour les élections européennes, finalement, ou pour valider l'accord de sortie ou toute autre consultation au sujet du Brexit. Une perspective qui n'enchante pas grand monde. Écoutez le reportage d'Éric Biegala dans la région des Midlands au Royaume-Uni.
Un nouveau référendum, ou au moins une nouvelle consultation nationale, c'est devenu une évidence politique pour Martin, 60 ans.
Si le Parlement n'arrive pas à régler ça, il faut repasser devant le peuple, c'est simple.
Quelle que soit la nature de la future consultation nationale, pour ou contre l'application de l'accord de sortie avec l'Union européenne par exemple, elle s'apparentera évidemment à un nouveau référendum pro ou anti-Brexit, remarquent Anne et Amelia.
Il faudra probablement revoter, sans doute. Et en même temps, ceux qui ont déjà voté pour un Brexit se sentiront évidemment floués et très en colère s'ils perdent.
En fait, une nouvelle consultation ne ferait qu'aggraver la polarisation politique du pays, souligne pour sa part Daniel, pourtant un anti-Brexit convaincu.
Un nouveau vote créerait encore plus de problèmes. On a déjà eu un référendum et il faut en respecter le résultat, même si on n'aime pas.
Quant aux pro-Brexit, comme Brian, ils ne veulent tout simplement pas entendre parler d'un nouveau vote.
Il y a une crise de légitimité de la classe politique. On a voté majoritairement pour quelque chose, et elle n'en tient aucun compte. Aujourd'hui, une sortie de l'UE sans accord serait finalement la meilleure option.
Une sortie de l'Union sans accord, un Brexit dur, c'est ce qui pourrait arriver dès vendredi si Theresa May n'obtient pas ce mercredi un ajournement supplémentaire du Brexit jusqu'au 30 juin.
En France, rude journée pour l'exécutif hier à l'Assemblée. Édouard Philippe a présenté les enseignements du grand débat devant des députés d'opposition fort remontés. Aujourd'hui, il fera de même devant les sénateurs. Et puis, des députés et des sénateurs de gauche et de droite ont réussi à s'entendre sur le dos d'une autre décision de l'exécutif, la privatisation du groupe Aéroport de Paris. Le Parti Socialiste a enclenché une initiative inédite, un référendum d'initiative partagée qui pourrait empêcher le gouvernement de vendre la poule aux œufs d'or avec sa loi Pacte qui revient demain à l'Assemblée. Au moins 220 parlementaires, soit plus que les 185 nécessaires, se sont associés à cette pétition référendaire. Une initiative qui provoque évidemment la colère de la majorité. Anne Fauquemberg.
Ce sont les Républicains qui sont à l'initiative, mais le Parti Socialiste avait posé les jalons en janvier dernier pour demander le rétablissement de l'ISF, sans réussir toutefois à réunir le seuil de signature. Cette fois-ci, tout le monde est en phase, et notamment le député LR du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont.
J'estime que d'héritage gaulliste, la droite doit faire en sorte de ne pas sacrifier les bijoux de famille et de garder une sorte de maîtrise de ces monopoles naturels. C'est pour ça que j'ai proposé et apporté ma signature à ce RIP.
Une fois le texte au Conseil constitutionnel, la question doit être validée dans un délai d'un mois, puis il faudra trouver 4 500 000 électeurs pour soutenir ce texte. Le député insoumis, Éric Coquerel, n'est pas inquiet.
Il serait étonnant que nous n'arrivions pas à trouver ces signatures, d'autant plus que je suis certain que, de manière très majoritaire, les Français sont opposés à cette privatisation. C'est hallucinant de faire une mauvaise affaire financière parce que ça sera une mauvaise affaire financière.
Une initiative qui tombe au plus mal alors que la majorité patauge après la restitution du grand débat. Sentiment de colère pour la députée La République En Marche, Olivia Grégoire.
Quand il s'agit de bloquer un gouvernement, ça, il y a du monde pour faire des conférences de presse. Quand il s'agit de faire des vraies propositions tangibles et financées notamment, ça c'est pour les LR et leurs propositions de loi sur les pouvoirs d'achat la semaine dernière, il n'y a plus grand monde dans l'hémicycle. Dans 48 heures, ce sera voté en hémicycle et puis on verra.
Pour que le processus s'engage véritablement, il faut aussi le valider avant la promulgation de la loi Pacte. C'est une plongée dans l'inconnu, dit la socialiste Valérie Rabault au sujet de cette initiative qui existe depuis 2015 dans la Constitution.
La majorité également gênée aux entournures sur l'affaire Benalla, une affaire aux multiples volets, puisque la justice enquête sur des soupçons de faux témoignages, mais aussi sur l'énigme dite des passeports. On s'en souvient, Alexandre Benalla avait continué d'utiliser ses passeports diplomatiques après avoir été licencié. Dans ce volet également, les juges veulent entendre trois personnes clés de l'Élysée, tous les trois convoqués aujourd'hui pour une simple audition. Corinne Audot.
Les explications d'Alexandre Benalla sur l'usage de ces divers passeports ont beaucoup varié. En septembre, entendu par la commission d'enquête du Sénat, il explique que ses passeports diplomatiques sont restés dans son bureau à l'Élysée après son licenciement en juillet. Deux mois plus tard, la lettre du Continent et Le Monde révèlent qu'il les aurait utilisés, notamment pour aller au Tchad en décembre, juste avant une visite d'Emmanuel Macron. Réentendu par le Sénat en janvier dernier, Alexandre Benalla dit cette fois qu'un salarié de l'Élysée lui a rendu ses passeports en octobre. Faux, les passeports n'étaient pas à l'Élysée. D'ailleurs, ils ont servi dès le mois d'août, explique alors au sénateur le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda.
Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août et le 31 décembre.
Patrick Strauda soupçonne également Alexandre Benalla d'avoir fabriqué une fausse note à l'entête du chef de cabinet du président pour obtenir en juin 2018 un passeport de service. François-Xavier Loche, dont l'identité aurait ainsi été usurpée, a d'ailleurs porté plainte contre Alexandre Benalla. Ce sont ces points que les juges vont tenter d'élucider en interrogeant les trois collaborateurs du président.
Corinne Audouin, accélérer le développement pour l'Arctique, dit la Russie, empirer les effets du réchauffement climatique, disent les scientifiques. Le Forum international sur l'Arctique s'est ouvert hier à Saint-Pétersbourg en présence de Vladimir Poutine et de plusieurs dirigeants scandinaves. Très active près du cercle polaire, la Russie a annoncé hier son intention d'accentuer encore ses efforts de développement dans cette région. Le Kremlin veut profiter du réchauffement climatique pour ouvrir de nouvelles voies maritimes et exploiter de nouveaux gisements. Une ambition dangereuse pour l'environnement, c'est ce qu'estime le climatologue Hervé Letreux, membre de l'Académie des sciences. Il était hier l'invité de Stanislas Vazak.
L'exploitation de l'Arctique est quelque chose qui est dangereux. C'est une logique que les Russes veuillent en tirer parti. D'avoir des transports, par exemple, de fuel dans l'Arctique, c'est des choses qui sont dangereuses parce qu'on sait que des bateaux qui s'échouent dans ces conditions-là, ça peut provoquer des marénards beaucoup plus graves que dans des régions plus chaudes. On a aussi une exploitation minérale qui peut se faire dans ces régions-là. On peut imaginer aussi que ça devienne une zone de conflit. Donc je crois qu'il y a vraiment un intérêt très, très fort à ce que cette région soit régulée de manière plus large qu'elle l'est aujourd'hui. Alors c'est un problème compliqué parce qu'il y a beaucoup de pays qui entourent la zone arctique et qui ont des intérêts qui peuvent être divergents. Idéalement, il faudrait sanctuariser l'Arctique comme on a sanctuarisé avec un certain succès l'Antarctique, ou qui est une terre qui est interdite à des formes d'exploitation non scientifiques. Bon, c'est ce qu'il faudrait imaginer pour l'Arctique, effectivement. Mais c'est plus difficile à faire parce qu'on est beaucoup plus proche des populations et des grands États.
On termine avec un mot rapide du temps de ce mercredi. Pas beaucoup de soleil, à part quelques éclaircies de la vallée de la Loire à la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, des pluies faibles au nord, plus soutenues sur la moitié sud. Côté température, comptez au plus chaud de 10 à 17 degrés du nord au sud, 18 à 19 sur la Provence.
Merci Anne-Laure Chouin. 8h16 sur France Culture. Dans quelques instants, on évoque la situation en Israël au lendemain donc de ces législatives, semble-t-il, remportées par Benjamin Netanyahou, qui adopterait donc un cinquième mandat. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Filu. Il a publié Main basse sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste. Un livre qui est corroboré, je dois dire, par les derniers résultats des élections. Et puis, dans une trentaine de minutes, Aurélien Bélanger nous livrera les secrets des trous noirs. Frédéric Mitterrand devient éditeur. C'est le thème du billet culturel de Mathilde Serrel. Et puis, un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, consacré à La République en marche.
Exactement, La République en marche qui voit ressurgir le clivage gauche-droite en son sein. Attention, danger pour le mouvement présidentiel.